100% Aiglon, Thomas Debono.
18h06, c'est parti. 100% Aiglon, le débrief avec ce soir toute la team qui est avec moi. Patrice Alberganti, je vous le disais. Salut Patou.
Salut tout le monde, salut Thomas, salut chers auditeurs et salut mon Steph.
Eh ouais, Stéphane Collet avec nous aussi. Salut Stéphane.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et l'incontournable Maxime Bacquier. Salut Max.
Bonsoir Bilout.
100% Aiglon, c'est parti.
C'est comme ça qu'on disait dans le Nord, Stéphane.
Tchoubilout.
Tchoubilout.
Ouais. Eh ouais, ils s'appellent tous Tchoubilout là-bas.
Il faut le dire, ils nous reviennent du Grand Nord, Maxime Bacquier et Patrice Alberganti. Vous avez passé ce petit week-end tranquille du côté de Lens. Et quel week-end on a passé quand même, les gars.
Et oui, on a bien fait d'y aller, tu vois, Patrice.
Alors, il paraît que
dans les valises, est-ce que c'est toi le porte-bonheur, le facteur X, finalement?
Il paraît que c'est un peu tendu, Lens, Patrice Alberganti. On se fait suivre le soir, a priori. Hein.
Ouais, il se passe des choses bizarres, mais j'ai vachement aimé.
Ouais.
Ah, je vous jure, j'ai vachement aimé l'endroit, j'ai vachement aimé les gens. C'est facile, c'est simple. Ils ont le sourire, ils ont la banane. Et voilà, franchement, et puis il y avait un score pour nous très intéressant aussi.
Ah, ce petit 3-1, il fait du bien, hein. On va pas se mentir. C'est vrai que c'était agréable. Alors, question qu'on peut se poser, est-ce que le plan A fonctionne toujours? Est-ce que Farioli ressort grand gagnant, Max, de ce match?
En tout cas, il fallait être très optimiste pour imaginer que la deuxième meilleure équipe depuis 6 mois, hein, quasiment en Ligue 1, allait s'incliner à la maison face à la deuxième pire équipe en 2024. Mais ça, c'est la magie de ce sport qui nous réserve toujours des surprises. Et alors que effectivement l'OGC Nice restait sur 6 matchs sans victoire, et alors que Francesco Farioli nous assure qu'il n'a absolument rien changé dans la préparation de ce match, qu'il a maintenu le cap, il ne s'est pas renié, il ne s'est pas adapté malgré ces conditions un peu compliquées. Donc ça voudrait dire que son plan était le bon, qu'il fonctionne encore et que ce sont les joueurs qui s'y sont un petit peu remis et se sont remis un peu les idées en place et ont appliqué enfin ces consignes. En tout cas, c'est un petit peu le message qu'il a voulu faire passer, que les Aiglons ont également avoué à la fin de cette partie. Donc oui, pour moi c'est la victoire des joueurs, parce que ce sont eux qui se sont un peu repris en main, notamment avec ce stage en Belgique. C'est 48 heures qui ont servi à ressouder ces liens, à repartir vers l'avant et à recroire donc en ce projet, en cette méthode de Francesco Farioli qui sort, oui, et effectivement, selon moi, grandit aussi de cette victoire parce qu'il ne s'est pas renié. Il préfère mourir avec ses idées. Et eh ben il est toujours vivant après ce déplacement à Lens.
Farioli qui est un peu testoun, hein, comme on dit dans le sud, il a une idée en tête, il a pas ailleurs. Est-ce que tu penses, Pat, que c'est vraiment les joueurs qui ont repris confiance dans cette méthode, qui ont repris confiance en eux, et que c'est ça qui a permis aux Aiglons de gagner ce match?
En tout cas, ils ont remis les ingrédients nécessaires dans le match pour pouvoir faire que la patte Farioli ou le projet de jeu Farioli puisse aussi exister comme en début de saison. Moi, j'ai trouvé qu'on avait eu, dans l'attitude sur le terrain, on avait retrouvé des valeurs et des vertus qu'on avait perdues depuis 3-4 matchs, tu vois. On avait plus d'intensité, plus d'envie d'aller chercher le duel, dans l'agressivité, dans la zone pour défendre. On a défendu tous ensemble, on a fait tous les efforts et on a été récompensé par justement ce plan de jeu qui a été appliqué, c'est-à-dire aller chercher haut cette équipe de Lens et aller presser très très haut dans la zone. Donc moi j'ai trouvé que les joueurs s'étaient vraiment remis la tête à l'endroit, et on en a, pour en avoir discuté avec Dante à la fin du match, il disait que c'était très important qu'on continue à garder ce qu'on a revu là, qu'on voyait plus depuis un petit moment, et tous les joueurs étaient logés à la même enseigne, et on a fait vraiment ce qu'il fallait.
Mais donc Patrice, ça veut dire que le problème était plus mental que tactique
Ouais.
ces dernières semaines.
Oui, rappelle-toi, je t'ai dit, c'est ce que demande Francesco Farioli, c'est vachement énergivore et c'est vachement contrariante, tu veux, dans le sens où c'est pas forcément quand tu te dis tu vas rentrer sur le terrain pour ne pas prendre de but, bien défendre tous ensemble, et qu'on te parle pas forcément de l'aspect offensif. À un moment donné, en tant que joueur, tu peux baisser un petit peu de pied en te disant ça m'ennuie un petit peu, tout ce qu'on a à faire sur le terrain, tu vois. Et je trouve que là, j'en ai parlé d'ailleurs cette semaine, je trouve que là, ils se sont certainement dit, écoutez les gars, on a 8 matchs, on a 9 matchs à finir, pardon, il nous en reste 9, il va falloir qu'on mette le bleu de chauffe pendant 9 matchs, parce que il faut absolument qu'on accroche une place européenne. Donc ils se sont mis tous la tête à l'endroit, ils sont repartis tous au combat, et quand ils mettent les ingrédients nécessaires, tu t'aperçois que cette méthode, elle fonctionne. Et quand tu en fais un peu moins, tu t'aperçois qu'on est une équipe qui est un peu plus facile à prendre.
Stéphane, toi qui, comme Patrice, a été joueur pro, hein, t'es passé par Nice, par Lens, par Strasbourg, est-ce que tu penses que ce stage qu'ont fait les Niçois avant le match à Lens peut être vraiment le catalyseur et qui, le stage leur a permis de retrouver en fait cet état d'esprit qu'ils avaient déjà au début de saison?
Dire que forcément oui, en plus ils ont gagné, donc non c'est pas, ouais, c'est pas anodin. Je pense que la victoire et ce stage là juste avant pour se remettre les idées en place, pour essayer de regrouper et de mettre les têtes à l'endroit, non c'est, mais bon après Patrice parlait d'un problème, que ce système demandait beaucoup d'énergie et là qu'ils sont un peu mieux physiquement aussi, je trouve. Ben ils ont pu exploiter ben toutes les erreurs que Lens a pu faire, mais voilà, il faut vraiment insister. Je pense que ce que avait fait Farioli avant, qui marchait bien jusqu'à présent, l'a moins bien marché à partir du moment où on a été en difficulté physiquement. Donc oui, mental, ouais, on est bien d'accord, mais si physiquement on n'a pas les cannes pour entreprendre ce que le coach nous demande, et notamment nous on le sait très bien au niveau du pressing, au niveau de la percussion, de partir très vite vers l'avant, ce qu'a fait Thuram sur un des buts, sur la récupération, Mofi chaud, voilà, il faut insister de ça. C'est dommage que voilà, on peut encore croire en cette fin de saison sur l'Europe, mais le trou en fait que toutes les équipes a à peu près, nous il a duré un peu plus longtemps. Donc est-ce qu'on peut le rattraper sur ces derniers matchs? Ben on l'espère tous.
Et c'est vrai que ce trou, moi j'en parle régulièrement, alors certains me disent c'est pas rationnel, machin. Chaque hiver, les Niçois ont ce trou. Alors toi tu dis que c'est toutes les équipes, moi je constate parce que je suis supporter niçois et que je suis l'OGC Nice depuis de nombreuses années. Et je me rends compte que chaque année on a ce trou. Et là j'ai l'impression que ça y est, on en sort un petit peu. Moi j'appelle ça le trou de l'hiver.
Ouais.
Le printemps arrive, ça y est, on ressort un peu la tête de l'eau, ça va mieux.
Ouais, c'est possible. Enfin, moi, j'ai toujours vu les équipes avoir les trous. Après, ça peut durer 2 matchs, 3 matchs. Là où où Farioli, il faut respecter, c'est qu'il est resté droit dans ses bottes. Et sa façon, il a pas lâché prise. Et finalement, ouais, là-dessus, on peut lui dire qu'un grand bravo.
Ouais, il a eu raison. Et c'est vrai qu'il a pas pris peur, Farioli. Moi, c'est ça que je loue un petit peu aussi. C'est qu'il voyait ces 6 matchs sans victoire, ces 6 matchs d'un faible niveau, on peut le dire. Il a pas pris peur. Il avait confiance dans sa méthode et allez, on y va, on continue. Voilà, il a changé peut-être une fois ou deux. Il est passé avec 3 défenseurs derrière Max. Je parle sous ton contrôle, mais globalement, je l'ai trouvé assez serein. Hein.
Et c'est un peu risqué quand t'es un jeune entraîneur que tu n'as gagné nulle part, de rester droit dans tes bottes, de ne pas changer d'un iota ta méthode, ton discours. Hein. A priori, il y a eu des discussions avec les cadres pour essayer de remobiliser tout le monde, mais il a pas changé de système, il a pas changé de consigne. Et c'était un peu risqué. Il jouait gros Farioli sur ce match parce que s'il y avait eu une nouvelle défaite, il aurait passé une trêve internationale un peu inconfortable où forcément le débat de son maintien en poste, même si Florent Ghisolfi était monté au créneau avant même le match contre Montpellier en disant que quoi qu'il arrive il finirait la saison, s'il y avait une nouvelle défaite encore là et bah, cette course à l'Europe qui commençait véritablement à devenir très, très compliquée, ça aurait été délicat. Et c'est pour ça que je trouve qu'il sort lui gagnant, grand gagnant, renforcé, presque réhabilité de cette victoire, parce qu'il a maintenu ses idées, qu'il a réussi à faire recroire en sa méthode ses hommes et qu'il a fait aussi des choix forts comme de mettre Mohamed Ali Chaud sur le côté qui est un des artisans de cette victoire, comme de maintenir contre vents et marées, un Kefren Thuram qui n'était pas décisif et qui se met à marquer. Donc, il fait des choix qui sont payants. Et finalement, c'est le football. Il n'y a que les victoires qui te donnent raison ou tort. Et Farioli, oui, il a été un petit peu têtu, peut-être. Droit dans ses bottes, c'est sûr. Et là, il doit mieux respirer ce matin et préparer tranquillement cette préparation, cette trêve hivernale. Parce qu'il y a 8 derniers matchs, comme le disait Patrice, qui deviennent là à nouveau passionnant dans cette course à l'Europe.
Ah, ça devient effectivement 8 finales hein, pour remonter, possiblement accrocher cette Ligue des Champions. C'est un petit peu le rêve de tous les supporters niçois.
Ah, on peut se remettre à y croire. Il y a 3 points de retard sur le 3e Monaco. On est à égalité avec Lille, 4e, qui est cette place, on le sait, qualifie pour le barrage de Ligue des Champions. Donc voilà, on a un match comme ça. Ça pouvait basculer du mauvais côté. Eh ben, on s'est remis dans le bon sens. C'est la magie du football qui rebat les cartes chaque week-end. L'opération, elle est magnifique. On a repris des points à tous nos concurrents sur le podium.
Et en plus, on a eu de la chance en ce week-end. Ah, c'est ça, on a eu de la chance parce que les autres matchs ont tourné en notre faveur également. Et même si le calendrier de fin de saison est un petit peu plus compliqué pour nous que pour les autres, on en parlera dans un instant. Puis dans un instant, les tops et les flops aussi de ce match hein, contre les Lensois. N'hésitez pas à nous appeler, à participer à l'émission. C'est votre émission question, vous, les supporters de GC Nice 100% Aiglon, 04 93 82 03 04. On revient dans une petite minute maintenant sur France Bleu Azur.
Tous les matins, en semaine à 8h25, Adrien Mangano et les VIP de passage sur la Côte d'Azur sont sur France Bleu Azur et France 3 Côte d'Azur.
Salut, c'est Christophe Willem sur France Bleu.
Bonjour, c'est Zazie.
Adrien tend le micro France Bleu Azur à celles et ceux que vous aimez voir au cinéma, à la télé, sur les réseaux. L'actu média, musique, ciné, série, tous les matins à 8h25 et tout le temps sur francebleu.fr et l'application ici.
Samedi 6 et dimanche 7 avril, Aznavour s'entend avec l'Orchestre Philharmonique de Nice et Jules Grison. Ensemble, ils joueront les plus grandes chansons d'Aznavour dans un récital symphonique. Aznavour s'entend en partenariat avec France Bleu Azur, samedi 6 et dimanche 7 avril à l'Auditorium Joseph Cosma à Nice. Plus d'infos sur francebleu.fr.
18h18 sur France Bleu Azur. On fait un point sur vos conditions de circulation. Toujours difficile à Cannes, hein, sur le boulevard Carnot, dans le sens montant. Vous allez rencontrer quelques difficultés autour de la Croisette également. Hein, c'est difficile de circuler à cette heure-ci, tout comme sur l'avenue du Campon. Dans le sens montant, hein, pour rejoindre l'autoroute A8, ou à cette heure-ci, ça roule plutôt bien. Pas de ralentissement, trafic plutôt fluide. Arrivé à Nice, la sortie Saint-Augustin vous posera quelques problèmes avec un ralentissement qui vous fera perdre 5 à 10 minutes. Dans l'autre sens, c'est compliqué à partir de Saint-Philippe jusqu'à la sortie du tunnel Malraux, donc en direction du centre-ville. L'avenue Maréchal-Lyoté est totalement engorgée également à cette heure-ci, tout comme la route de Turin et la pénétrante du Paillon, qui n'a réouvert que depuis une demi-heure suite à un accident qui s'est produit il y a un petit peu plus d'une heure maintenant. Et pour rejoindre l'Italie sur l'autoroute A8, vous n'allez rencontrer aucune difficulté, ça roule très bien.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, ça continue toujours avec Stéphane Collet, notre invité ce soir, et Patrice Albert-Gontier, là, Maxime Bacquier également. Et puis vous, hein, les supporters, n'hésitez pas à nous appeler 04 93 82 03 04. Il est l'heure des tops et des flops. On va commencer par les tops.
100% Aiglon, les tops.
Alors les tops, Max, bien évidemment, on a Mohamed Ali Chaud. Moi, je voulais juste faire un gros mea culpa quand même, parce que je tape un petit peu sur Kefren Thuram depuis quelques semaines, et je l'ai trouvé excellent. Il a mouillé le maillot. On a retrouvé un milieu des Aiglons, et ça change tout. Dès qu'on a ce milieu de terrain, je trouve que vraiment ça change la physionomie de l'équipe, ça change la physionomie du jeu. Et ça fait du bien. Donc, mea culpa, bravo à Kefren Thuram qui sera mon top pour ce match. C'est pas le tien, je crois, Max. Hein.
Non, tu l'as dit, Mohamed Ali Chaud, je trouve que c'est un peu le symbole de cette victoire, de cette réaction. Ça a été le choix fort de Farioli de le relancer par rapport à la place de Laborde ou de Guessant, qui sont assez méritants depuis le début de la saison, ou pour Guessant depuis le début de cette année 2024. Donc, de mettre un Mohamed Ali Chaud qui tardait un petit peu à concrétiser les espoirs qu'on plaçait en lui, c'était déjà un choix important. Et c'est lui qui, finalement, lance cette victoire en allant récupérer ce ballon dès la 11e dans les pieds de Medina, en mettant cet impact, en allant au pressing et en mettant ces ingrédients que réclame Farioli. Il fait le bon geste, Patrice en parle toutes les semaines quasiment, d'être juste techniquement dans les zones de vérité. Et là, quand il rentre dans cette surface de réparation, il sert sur un plateau Terem Moffi. Pareil en deuxième mi-temps, ballon récupéré, intercepté, la passe dans la profondeur, impeccable pour Thuram. Même si le reste du match, il est peut-être un peu moins bien, et encore, il récupère quand même 4 ballons, il y a pas mal de dribbles réussis. Moi, je trouve un match très consistant, mais les attaquants, à un moment, t'es jugé sur le geste qu'il faut faire au bon moment, et Mohamed Ali Chaud les a fait malgré son jeune âge, son manque d'expérience, son manque de rythme peut-être. Donc par rapport à ce qu'il symbolise sur cette victoire, pour moi, oui, c'est mon top.
Et Terem Moffi, on rigole hein, dans une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où il dit la passe qu'a fait Mohamed Ali Chaud sur la PlayStation, c'est totalement interdit, hein, c'est pas fair play. Dans la vraie vie, ça passe, tout est bon à partir du moment où on marque. Et c'est vrai, Pat, à partir du moment où on marque, tout est bon en fait.
Hein. Oui, hein, tout est bon pour marquer un but. Hein. Tu peux marquer du genou, de la tête, ce que tu veux, tant qu'on met au fond. Et je rejoins. Alors c'est pas mon top. Hein. Je rejoins Max sur la justesse technique dans les zones de vérité. Là, ça a bien fonctionné. Donc quand ça fonctionne et que tu fais ce qu'il faut, tu t'aperçois qu'on peut aller au but sans aucun problème.
Alors exactement. C'est qui ton top? Alors si c'est pas Thuram ni Chaud, C'est Mofi.
Rosario.
Rosario.
Rosario, ah, incroyable, oui. Rosario, ouais.
Bon choix.
Ah, ouais. Tu parles du milieu de terrain.
Ah ouais, mais ça a tout changé.
Pablo Rosario, quand t'as un joueur comme ça dans l'équipe qui est capable de faire autant d'efforts que ce qu'il a fait, d'aller tacler à droite, à gauche, devant, derrière, qui a équilibré l'équipe quasiment tout le temps qu'il a été sur le terrain, il a fait des gros efforts, il a travaillé pour le collectif, travaillé pour le groupe, et il a pas fait des fioritures, il a pas surjoué son match, il a fait tout simplement ce qu'on lui demande de faire, et sur ce match-là, il l'a très bien fait. Donc mon top, c'est notre ami Pablo Rosario.
Donc toi Stéphane, ton top pour ce match? Le top pour ce match? Thuram?
Moi oui, Kefren Thuram, tout simplement parce que je pense qu'il est hyper important dans le système de Farioli. C'est un mec qui peut gagner beaucoup de duels physiquement. C'est là où on voit la différence entre un Kefren Thuram actuellement, ou ce qu'on a vu à Lens, et celui qui n'arrivait pas à récupérer un ballon et qui gagnait plus un duel il y a quelques temps. Et sur ce match-là, je trouve que c'est vraiment trop important pour les Niçois. Déjà sur son but, j'estime que voilà, mon top, c'est lui.
Je suis assez d'accord avec toi, c'est vrai que moi j'ai mis Thuram aussi, Thuram en top. On a Willy qui est avec nous, salut Willy.
Bonsoir Thomas, bonsoir Maxime, bonsoir Patrice, bonsoir Stéphane.
Salut
bonsoir.
Willy.
Bonsoir oui.
Willy, ton top toi pour ce match?
Mon top, j'aurais tendance à dire Boulka ou comme Patrice, Rosario.
Un peu les hommes de l'ombre qui symbolisent cet état d'esprit, parce que Boulka avec son masque, cette fracture du nez, moins de 72 heures après cette fracture du nez, il était bien là. Et Willy, je sais que les supporters, ils aiment aussi voir ce fighting spirit.
Ah, il a quand même fait de gros arrêts, et si Lens n'arrive pas à gagner ce match, on lui doit quand même en grande partie.
C'est vrai.
C'est vrai, il y a Todibo aussi que j'ai trouvé bon et impliqué sur ce match, Willy.
Il faut qu'il se remette un peu la tête à l'endroit. Il est un peu en dedans ces derniers temps. Mais on va pas lui reprocher. Il a fait de belles choses chez nous. Ça va revenir. Quand on voit quelqu'un comme Thuram qui a mis 8 mois pour se remettre la tête à l'endroit, on peut laisser un peu Todibo.
Ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut lui laisser un peu de temps, même si on n'en a pas tant que ça, hein, puisque comme le disaient Max et Patrice, hein, il nous reste que 8 matchs là pour accrocher l'Europe. Ça va passer vite. Merci Willy d'avoir été avec nous.
Bonne soirée messieurs.
Bonne Merci. Soirée à toi. Salut, après Willy. Les tops forcément, les flops.
100% Aiglon, les flops.
Les flops Max, ton flop.
Mes flops.
Tes flops.
Les supporters lensois. Rebelote. Après l'année dernière où ils avaient déjà agressé nos pauvres supporters niçois qui sortaient du stade, rebelote une nouvelle fois avant et après le match. Donc ça commence à faire beaucoup. Alors on va pas dire que les autorités du Pas-de-Calais sont complices, mais en tout cas elles sont complaisantes, parce que effectivement quand on a commencé à se renseigner pour savoir ce qui se passait, on nous a dit non mais tout va bien, vous inquiétez pas, non il y a rien du tout. Et en fait les supporters niçois ont donc été pris à partie avant le match, en arrivant au stade, les voitures secouées, des Niçois qui sont sortis pour se défendre et qui finalement ont envoyé aussi 3 Lensois à l'hôpital, légitime défense. Derrière, les Niçois arrivent à rentrer par cage visiteur, ressortent du stade avec une belle victoire dans la tête et retrouvent les J9, les véhicules, vitres brisées dans un parking qui était censé être sécurisé, les affaires volées. Donc ça fait vraiment, vraiment mauvais genre pour soi-disant le meilleur public de France. Ça fait 2 fois en 2 ans et on n'a pas l'impression que les autorités du Pas-de-Calais ont très envie de sévir par rapport à tout ça. Donc voilà, il serait temps quand même que de taper du poing sur la table, de punir ces comportements-là. Le GC Nice a publié un communiqué pour s'émouvoir et demander que toute la lumière soit faite. Il y a 3 Lensois qui ont été placés en garde à vue. On tiendra évidemment au courant de ce qu'il en découle, mais c'est pas possible de se déplacer comme ça, de se faire agresser et de pas être plus protégé que ça par les autorités. Donc voilà, le meilleur public de France soi-disant, il y a eu des banderoles contre Gisolfi l'année dernière, ça fait beaucoup et voilà, flop flop sur ce match.
Et d'ailleurs, il y a un supporter niçois hein, qui était à ce déplacement lensois, qui a été victime ou témoin de ces agressions. Appelez-nous, hein, 04 93 82 03 04.
On a eu Tony qui, lui, n'a pas été agressé, mais a observé, a pu voir cette scène-là où les supporters niçois étaient prêts à partir. Il nous a dit, sur l'antenne de France Bleu Azur, ils étaient déterminés à tout casser. Donc, ça, voilà, ça fait beaucoup. Il y a eu ce qui s'est passé à Lyon avec ce carcaillassé, à Nantes. On va pas refaire le film, mais les supporters niçois, cette année, ils sont assez irréprochables et quand ils se déplacent, ils sont souvent pris à partie. Donc, peut-être davantage de protection aussi pour ces Niçois, parce que voilà, avant qu'il y ait un drame, quoi.
Ouais. Ton flop, donc, toi, c'est les supporters lensois et je suis assez.
Malgré cette belle ambiance, Patrice qui connaissait pas Bollaert, faut pas encore une fois mettre tout le monde dans le même panier. Bollaert, magnifique ambiance, et on peut saluer aussi le fait que les supporters lensois, dans leur globalité, félicitent leur équipe malgré la défaite. Toi, tu peux aussi retenir ça de cette première à Bollaert.
Ouais, je vais retenir ça, c'est sûr, et je vais retenir aussi le fair play, parce que quand tu écoutes parler les supporters lensois à la fin du match, ils te disent tous franchement, Nice a mieux joué que nous, Nice a été meilleur, Nice a été plus conquérant que ce qu'on a été nous et plus réaliste devant le but. Et ils sont, j'ai trouvé, mis à part cet épisode, j'ai trouvé que c'était un public assez fair-play et qui aimait le football, tu vois, qui le centre de leur truc, c'est le football, quoi. Donc j'ai trouvé ça super sympa.
Toi, Patrice, ton flop?
Ah, c'est pas un vrai flop, parce que je vais pas incriminer qui que ce soit, mais moi c'est la blessure de Sanson.
Ouais.
Moi, la blessure de Sanson, je sais que ce joueur, il est important. Je sais que ce joueur, il est vraiment utile au collectif de par son expérience, de par son activité, sa justesse technique aussi. Et on le perd encore une fois, quoi. Et donc ça me désole, parce qu'il était déjà blessé, il revient de blessure, il se reblesse tout de suite. On va le perdre encore combien de temps, je sais pas, mais c'est un joueur qui peut compter dans la course à l'Europe et par son expérience. Donc ça me fait beaucoup de peine pour lui, quoi.
En fait. C'est un joueur important, c'est
blessure au mollet en plus. Hein.
Ouais, c'est
jamais
très
bon ça.
Non. Ça peut être long à soigner. Ou
on espère qu'il est sorti à temps, parce que toi qui connais les blessures au mollet, Patrice, ça tire souvent. Ouais, oui.
Il boitait bas. Mais franchement, quand il est sorti, quand on te soutient comme ça, quand ton le kiné te prend, te soutient comme ça, parce que tu n'arrives plus à poser les pieds par terre, c'est qu'à mon avis, le mollet l'a bien pété. Hein.
C'est pas bon signe.
Bon. T'en as eu des blessures au mollet, Stéphane?
Oui, les claquages. Ouais.
Ouais, ça dure. Ouais, c'est
trois semaines.
Ouais,
trois semaines,
un mois.
Ouais, quand même.
Ouais,
donc ouais, on a pas un petit.
On n'a pas de nouvelles en tout cas depuis samedi.
Eh bien, on vous tiendra bien sûr au courant. Max va se renseigner. Nous également. Stéphane, ton flop toi pour ce match?
Moi, je dirais la blessure, parce qu'après, j'étais pas au courant des incidents après match, malheureusement. Mm-hmm. Mais bon, on veut pas trop condamner en soi. En règle générale, ils se comportent tous bien.
Après, il faut juste rappeler aussi pourquoi il y a cette espèce de rivalité. C'est parce que les Niçois et sont très proches des Lillois. Il y a une vraie connexion entre ultra Niçois et ultra Lillois, et on connaît la rivalité régionale et géographique entre Lillois et Lensois. Donc ça vient de là, mais il faut que ça s'arrête juste à du folklore. Faut pas en aller à chaque fois qu'on va à Bollaert à des agressions physiques. Sinon, malheureusement, ça arrivera comme ça arrive dans d'autres stades. On ne pourra plus se déplacer.
Interdit.
Et d'avoir des parkages visiteurs vides, c'est pas ce qu'on souhaite.
C'est pas l'idéal. Je suis étonné que personne n'ait parlé de Boga ce soir, que j'ai trouvé assez transparent,
très discret.
Assez transparent samedi soir. Hein.
Ouais, c'était une petite déception dans le collectif. Après, on le soulignait en début de match, puisque j'ai fait un petit focus sur lui quand j'étais en train de regarder de commenter le match. Et Max, Victor nous dit à l'antenne, Boga, je vais, mais Boga, je regarde depuis 10 minutes. Il avait un marquage individuel, le mec. Je te dis pas, le mec, il allait partout avec lui. Hein. De partout où il allait, il le suivait. Donc, ceci peut expliquer cela, mais après, tu dois pouvoir, bien évidemment, être un peu plus visible, même si tu as un marquage individuel, tu dois trouver des situations où tu arrives à te démarquer pour qu'on te trouve. Il a pas su le faire, il est sorti, c'est un match où il a pas été brillant.
Et il est sauvé par les stats. Alors, j'aime pas trop les stats, mais là, pour le coup, elles sont plutôt bonnes, et notamment défensivement, 5 ballons récupérés.
Ouais, il a beaucoup travaillé.
C'est 94% de passes réussies, beaucoup de duels gagnés, donc, il a beaucoup travaillé pour le collectif, il s'est un petit peu moins mis en valeur, comme à Paris, c'est lui qui avait rallumé la lumière sur des exploits individuels.
Si Francaise, il a vu le match, il te dit, tu me prends Boguin au marquage individuel.
Ouais, c'est ça, ouais.
parce qu'à Paris, il avait fait tout ce qu'il a voulu, quoi. Donc,
un match sans. On a Patrice qui est avec nous. Salut, Patrice.
Oui, bonjour tout le monde, et bonjour à Thomas Debono, qui est un peu le Dédé Chorza, qui m'a un peu taclé la dernière fois, mais c'est pas grave.
Viril, mais correct, toujours. Salut, Patrice.
Oui. Il a souvent le ballon, mais rarement l'homme.
Dis-moi, Patrice, ton flop, toi, pour ce match?
Je pense que je suis l'avis, le public lensois a ses bons et ses mauvais côtés. Je pense que c'est un peu détestable cette rivalité entre les deux clubs. Je trouve ça gâche un peu pas mal de choses. Et puis bon, effectivement, si Boga il a été marqué, c'est peut-être aussi parce que il a fait tellement un bon match contre Paris que effectivement ça a été un peu difficile pour lui. Et puis il nous manque quand même Youssouf, et ça manque dans l'équipe, un joueur comme Youssouf. Après, globalement, il y a le remplaçant de Barthes qui a eu des difficultés aussi.
Romain Perrault, premier match. Ouais.
On peut pas lui en vouloir. C'est compliqué aussi. On peut pas lui jeter la pierre, le pauvre garçon. Hein, il joue, il remplace Barthes un peu au pied levé. Bon, c'est un match retentant sous titré. Bon, c'est un peu compliqué pour lui aussi. Voilà. Globalement, c'est une satisfaction. Et je pense que Aigle d'Or a dû apprécier que pour sa fête, une belle victoire, ça lui fait plaisir.
Je te remercie aussi.
Entre Patrice.
Je te remercie, Patrice. C'est vrai que Max m'a dit que tu m'avais souhaité ma fête et je te l'ai pas souhaité, donc je te la souhaite un petit peu en retard. Mais bonne fête à toi aussi.
Voilà, et puis,
les gars,
juste une petite.
vous appelez après l'émission, non, c'est bon.
Juste un petit mot, il reste 8 matchs. Il faut prendre au minimum 12 points. Voilà. Ça, c'est le minimum, parce que sinon, si on ne fait pas avec plus de 50 points, on passera pas en Coupe d'Europe.
Mais pour finir où ? Sixième, cinquième ou le podium ? Parce que le prochain thème, c'est ce qu'il faut à nouveau croire au podium.
Contre Nantes, on doit passer. Contre Reims, match nul. Contre Marseille, c'est peut-être un peu difficile. Lorient, il faut les battre. Strasbourg, peut-être match nul. Paris, c'est point d'interrogation. Et Le Havre, normalement, on doit les battre. Et Lille, là aussi, c'est match nul. Et donc, c'était un petit
calcul
bien fait. 12 points.
Il nous a fait le loto-foot, Patrice. C'est bon.
Il a fait les pronostics.
Mais avec combien d'erreurs ? Loto-foot a le droit à une ou deux erreurs. Pour... Et tu gagnes quand même. Alors on va se dire que.
Voilà.
Allez, à un ou deux points.
Globalement, 12 points. 12 points. 12 points, il est faux. Et après, comme les autres aussi vont s'entretuer entre eux.
À l'image de ce week-end.
Voilà, que les matchs, par exemple, Paris Saint-Germain contre Marseille, que Marseille perde des points, que le match Lille-Lens, là aussi, peut-être que Lens peut faire un bon résultat à Lille, on ne sait pas. Donc, l'avantage que l'on a, c'est qu'il y a deux concurrents, Lille et Marseille, qui sont encore en Coupe d'Europe. Donc, nous, on n'a qu'un match à préparer par semaine. Donc, il faut bien se préparer, bien motiver et y aller. Comme on l'a fait à Lens, parce que des matchs comme Clermont et comme Montpellier, on n'en veut plus. Terminé.
Clairement, on n'en veut plus, Patrice.
Il a bien lancé le prochain thème.
Ouais, il nous a bien tendu passe-d pour Patrice. Merci, Patrice, d'avoir été avec nous.
Merci, bonne soirée à tout le monde.
À très vite, salut. Dans un instant, effectivement, est-ce qu'on peut toujours rêver de la Ligue des Champions ? C'est la question qu'on se posera dans 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
Demain, 6h-9h.
Bonjour.
Avec Quentin Lacrome.
L'eau, dans 20 ou 30 ans, il n'y en aura plus, disait le grand Jean-Claude Van Damme. Eh bien, avec l'invention de mon invité qui fait du bien à la planète, ça peut changer. Il a créé un mini-bar à eau, justement. Eh oui, ça se connecte directement au robinet, ça filtre l'eau tout seul et surtout, ça évite le gaspillage d'eau et la consommation de plastique. Celui qui a inventé ça s'appelle Ovadia et vient demain avec son invention.
Suivez l'émission en direct à la radio et en simultané sur France 3 Côte d'Azur et sur l'appli ICI, ICI.
L'univers de Jean-Jacques Goldman comme si c'était avec lui. Le tribute 100% Goldman, les Goldmen sont à la Palais Trocadéro vendredi 22 mars avec France Bleu Azur. Le chanteur Alain Stévez, véritable sosie du chanteur préféré des Français. Retrouvez les tubes de Jean-Jacques Goldman, du live, des musiciens. Les Goldmen, vendredi 22 mars à la Palais Trocadéro. Gagnez vos places sur France Bleu Azur.
Bonjour, c'est Elise Moon. Je voudrais vous parler d'un spectacle que j'adore, celui de la nature. Voir des haies, des arbres fruitiers ou des plantes grimpantes sur les façades, dans ce spectacle, on a tous un rôle à jouer. Pour y participer, rendez-vous sur jagijeplante.org. En famille, avec vos voisins, vos élèves ou votre club de sport, vous verrez où et quoi planter pour embellir votre quotidien et redonner vie à la biodiversité. La nature vous dit merci. J'agis, je plante est une initiative de la Fondation pour la nature et l'homme.
Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France Bleu Azur, ici, on parle d'ici.
18h37 sur France Bleu Azur. Enfin, nouveau point sur vos conditions de circulation toujours difficiles hein, sur la voie Matisse en direction du centre-ville. On est bien sûr à Nice. Difficulté qui s'étale hein, de Saint-Philippe à l'entrée du tunnel Malraux. Dans l'autre sens, c'est la sortie Saint-Augustin qui vous posera quelques problèmes ainsi que la sortie des Bosquets. Sur l'A8 direction Cannes, pas de difficultés particulières. Le trafic est fluide. Une fois arrivé à Cannes, c'est le boulevard Carnot dans les deux sens de circulation qui vous posera problème. Ainsi que l'avenue du Campon. Des difficultés également signalé sur la pénétrante Grasse-Cannes au niveau de Mont-Sartoux en direction de Grasse.
100% Aiglon,
100% Aiglon
sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief ça continue toujours avec Maxime Bacquier, Patrice Alberganti, Stéphane Collet, notre invité exceptionnel ce soir. Et on va se poser une question, peut-on encore rêver de Ligue des Champions?
France Bleu Azur, la radio des supporters de l'OGC Nice.
Selon toi, Stéphane, la Ligue des Champions, les Niçois peuvent encore en rêver?
Au-delà d'un rêve, on peut vraiment y croire, non? Grâce à cette victoire à Lens, parce que ça aurait pu tourner à l'inverse et ne plus y croire, ou à avoir moins de chances d'y parvenir. Mais là, avec cette victoire, oui, il faut y croire. Il faut aller au bout des choses. Je pense que la différence qui se fera pour Nice, c'est nos matchs à domicile. Qu'on n'a pas souvent très bien négocié, je me trouve plus solide à l'extérieur. Donc c'est peut-être notre façon aussi de jouer. Mais au niveau de la production du jeu, c'est vrai qu'à domicile, on doit faire mieux. Et si on fait mieux, oui, on aura de grandes chances d'y aller.
Effectivement, c'est vrai que à domicile, alors on n'est pas trop mal. On a marqué 25 points à domicile, 18 points à l'extérieur, mais c'est pas assez. Hein, tu
c'est raison. Récemment là que on oui. sent que ça coinçait un peu contre Clermont, contre Montpellier. Mais effectivement, ce match contre Lens, c'est ça. Patrice l'avait dit sur à l'antenne hein, vendredi avant de partir dans le Nord. C'est le match un peu de la dernière chance pour rester accroché à ce bon wagon. Et ben quand t'arrives enfin à négocier les virages, les tournants, ben tu te remets dans l'aspiration là de tous ces clubs qui vont jouer ce podium là, parce qu'on sent que chacun perd des points chaque week-end. Alors pour Nice, ça commençait à faire un moment, et ben y a les expressions match à 6 points là, tu pouvais te retrouver à 5 points de Lens et être un peu largué. Finalement t'es repassé devant les 100 et or, et t'es vraiment en embuscade à égalité de points avec Lille, à 3 points de Monaco qui se fait rejoindre sur le fil par Lorient à la maison. Donc cette Ligue 1 va nous réserver encore beaucoup de surprises, mais Stéphane a totalement raison. Ça va se jouer vraiment aussi sur peut-être le prochain match contre Nantes à la maison. Capitaliser sur succès à Lens, parce que si tu gagnes à Lens, mais que derrière t'arrives pas à capitaliser et à confirmer ça contre Nantes, ça n'aura pas servi à grand chose.
Non, c'est vrai que ça va être un enchaînement de matchs importants, et tous les matchs vont être importants, Pat.
Ouais, complètement. Je l'ai dit, si on veut vraiment accrocher ces places européennes, il fallait déjà passer par un bon résultat à Lens. Ça a été fait. Maintenant, il faut continuer à rester dans notre bulle, prendre match par match comme une espèce de mission, comme j'avais dit, de te dire, voilà, maintenant qu'on est toujours dans l'objectif qui est d'accrocher une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conference League, on s'en fout. Il faut qu'on finisse cette saison avec ce qu'on a produit depuis le début de la saison. Il faut qu'on finisse cette saison avec une place européenne. Et moi, j'y crois toujours. On est qu'à 4 points du second, quoi. Donc, c'est pas énorme, quoi.
Et Stéphane nous disait en début d'émission que le moral, oui, c'est important. Le physique, avoir les cannes, c'est aussi vachement important. Tu penses que la trêve va faire du bien aux joueurs qui vont pouvoir se reposer et revenir un peu plus en forme?
Ouais, franchement oui, parce que on sentait qu'ils étaient en perte de vitesse. Là, ils ont remis un coup de collier, et Dante le dit très bien. Hein. Ils s'en sont parlé en Belgique et ils ont dit, les gars, c'est le match avant la trêve. Là, il faut tout donner pour partir à la trêve avec l'esprit du devoir accompli. C'est ce qu'ils ont fait, mais ce qui va les aider à mieux récupérer, parce que quand tu pars avec une victoire dans ta tête, tu es beaucoup plus libéré, beaucoup plus détendu, et tu récupères 100 fois mieux. Et voilà, je pense qu'ils vont revenir encore plus plus boostés que quand ils sont partis.
Mais vous qui avez été joueurs tous les deux là, ce qui s'est passé en Belgique, le fait que Dante qu'il y ait ces discussions de vivre ensemble pendant 48 heures, ça peut être aussi, alors on en a déjà un petit peu parlé, mais ça peut être un déclencheur d'une série, d'une folle série, imaginons-le. Mais est-ce que ça, ce qui s'est passé là sur 48 heures, ce stage un peu commando, vraiment, ça peut avoir un vrai gros impact, que les joueurs se retrouvent entre eux, discutent, crèvent l'abcès?
Vas-y Steph.
Enfin, moi pour ma part, hein, j'ai connu ça, hein, à Strasbourg, des situations difficiles où on nous envoyait en stage, une fois sur deux, il n'y a eu pas réaction. Donc moi je pense que c'est plus dû à cette volonté des joueurs, même sans le stage, à se rendre compte que bon, ils étaient un peu dos au mur et qu'il fallait produire un peu plus. Mais est-ce qu'ils avaient les cannes, comme je le répétais tout à l'heure, ils avaient peut-être pas leur concours de circonstances, ils les ont retrouvés là sur un match hyper important. Et il faut justement les féliciter parce que après ce qu'ils viennent de traverser, aller à Lens, remporter 3-1, grand chapeau, parce que mentalement, ouais, on parle de cannes, mais bon, mental, ce qui convient avec le physique, bah, ils ont été présents, quoi.
Parce que ce qui dirige les jambes, c'est aussi la tête. Et peut-être qu'il y avait besoin de s'aérer un peu la tête, sortir de ce contexte niçois et de changer un peu de routine.
Bien sûr, mais quand tu pars de Paris, tu rentres à la maison, par exemple, c'est une chose. Quand tu pars direct avec tes coéquipiers quelque part, c'est autre chose, parce que les regards, c'est pas les mêmes. Quand tu rentres à la maison, quoi. T'as ta femme, t'as tes potes, t'as tes parents qui t'appellent, t'as ton agent qui t'appelle au téléphone, qui va te raconter ce qu'il a envie de te raconter, t'as ta femme qui va te dire ce qu'elle a envie de te dire, et puis là tu pars avec les joueurs. Donc si t'as pas été bon le match, tu te caches pas, t'es pas chez toi, t'es avec les coéquipiers, t'es avec tout le monde. S'il y en a un qui te dit t'as pas fait les efforts qu'il fallait, ou t'as putain les gars, t'as pas mis au fond, encore une fois, faire attention les gars, on a des occasions. Ils se parlent. Et quand tu te parles, pas forcément des prises de tête à te disputer, mais quand tu te parles et que tu te dis les choses, dans les yeux, tu vois, des fois ça peut aider. Moi, on en a parlé la semaine dernière. Je l'ai vécu ça avec Nice, quasiment relégable en Ligue 2. Il a fallu qu'on se mobilise tous ensemble. On est partis en stage et du coup, on a gagné tous les matchs derrière. Donc, effectivement, Steph l'a vécu aussi. Donc, c'est des expériences différentes. Mais effectivement, de se dire les choses de temps en temps, les yeux dans les yeux, ça peut fonctionner.
On a Adèle qui est avec nous. Adil, salut Adil.
Oui, salut toute l'équipe. Alors,
salut Adil.
C'est un plaisir pour moi d'avoir Stéphane Collet, parce que, juste une petite parenthèse, Stéphane Collet, ça évoque chez moi la remontée en 94, c'était ce joueur-là, ce dynamiteur extrêmement rapide, un peu dans le profil de Baki Kone qui arrivait à perforer les défenses, et on n'avait pas de gros moyens à l'époque, mais on avait des joueurs qui mouillaient le maillot, et ça fait plaisir d'avoir Stéphane Collet. J'ai aussi l'occasion de le croiser sur les terrains amateurs, que ce soit Antibes ou à Menton, un coach passionné, donc voilà, je voulais juste faire le petit salut.
Adil qui est arbitre, hein, donc peut-être que tu l'as crié un peu dessus sur des décisions.
Même pas, je crois.
Non.
Mais c'est tout gentil, merci Adil, mais je ne sais pas quoi répondre, je suis très honoré en tous les cas.
Bon, en tout cas, c'était sincère. Bon, sinon, pour répondre à la question, moi j'y crois pas au podium. J'y crois pas. On mériterait d'être européen, ça c'est une certitude. La Conférence League ou l'Europa League, mais je pense pas qu'on ait le jeu, parce que j'écoute l'émission depuis le début, on analyse tout sur le prisme du résultat brut. Mais l'animation offensive, moi, chaque semaine, je reste quand même malgré tout un petit peu sur ma faim. Il y a deux cadeaux lensois, faut pas l'oublier, hein, un penalty complètement grotesque sur
Rosario.
Ouais, c'est ça. Un ballon chippé sur Medina. Après, il y a sur l'action de Kefren Turan, il y a aussi une erreur à l'origine. Donc finalement, on a su exploiter les erreurs lensoises, mais quand on parle d'animation offensive pure, je pense qu'on est quand même en deçà des équipes qui sont devant nous, Monaco, même Brest. Donc voilà, moi j'y crois pas, pour répondre à la question. Ce sera déjà bien qu'on finisse européen.
Moi j'ai trouvé que le duo Mohamed Ali Chaud, Terem Moffi, je les ai trouvés beaux, bons sur le terrain. Enfin, c'était vachement agréable de les voir jouer. Et Chaud particulièrement, c'était ton top, Max, et c'est pas pour rien. Il a fait les efforts, mais à tous les niveaux. Il a défendu, il a intercepté des ballons, il a fait des passes. Enfin, il s'est donné. Et j'ai trouvé qu'au contraire, moi, cette animation offensive, je l'ai trouvé justement plus animé que d'habitude, Adil.
Ouais, mais on marque pas directement sur en fait une phase qu'on a élaborée où on prend l'ascendant sur la défense adverse. Là, c'est on a su tirer profit des erreurs de l'adversaire. Et quand on regarde sur la saison, le nombre de fois où on arrive à faire déjouer l'adversaire et à créer le déséquilibre, en fait, on n'a pas marqué tant de buts que ça. On a une bonne défense, mais c'est pour ça que je pense qu'on n'arrivera pas à finir devant les gros.
C'est un peu le contre-pied, finalement, cette victoire de ce qu'on voyait ces dernières semaines avec un OGC Nice qui se crée des situations, à défaut d'avoir des grosses occasions, sans réussir à marquer, puisque c'est Nice Matin, je crois, qui sort cette stat, que le Gym est la deuxième pire équipe du monde en termes de réalisme offensif. Avec ces fameux expected goals, on est à moins 16 buts par rapport au début de la saison, par rapport à ces statistiques, ces probabilités de marquer. Et là, sur nos trois tirs cadrés, on marque 3 buts. Voilà, alors est-ce que, comme le dit Adil, il faut du coup relativiser la portée de ce succès ou est-ce qu'il faut se dire qu'enfin on a réussi à trouver une forme de réalisme, de verticalité? C'est peut-être la bonne réponse, elle est peut-être au milieu un peu de tout ça, mais il y avait surtout besoin de retrouver de la confiance. Il y a 15 jours de trêve pour continuer de travailler, même si on peut imaginer que l'équipe va pas se transformer comme ça d'ici la fin du championnat. Mais pour revenir sur Mohamed Ali Chou, il incarne aussi une forme de concurrence. Il y a un moment, Evan Guessan a porter un petit peu cette équipe et à insuffler quelque chose. Là, ça peut être chaud. Il y a devant des hommes qui, si certains ne font pas l'affaire, d'autres sont là derrière pour prendre le relais. Donc, moi, j'ai aimé cette victoire parce qu'il y a eu du réalisme, il y a eu cette détermination qui avait manqué ces dernières semaines. Après, oui, tout n'est pas parfait, évidemment, mais gagner à Lens, peu l'ont fait. Le Gym s'est relancé là-bas, donc
c'est une bonne chose.
S'en contenter là, au point où on était.
Adil mettait le doigt sur cette animation offensive qui pourrait empêcher le Gym d'être européen, d'avoir la Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que le calendrier va être aussi un frein pour ces aiglons? On en parle dans un instant sur France Bleu Azur.
Le CMB Paddle Monaco fait son retour du 15 au 24 mars. Un des plus grands événements de paddle au monde revient sur les terrasses du casino de Monte-Carlo. Venez assister à un spectacle unique qui se déroulera une fois de plus dans le lieu le plus emblématique du sport mondial avec les meilleurs joueurs du championnat A1 Paddle. Le CMB Paddle Monaco du 15 au 24 mars sur les terrasses du soleil du casino de Monte-Carlo. En partenariat avec France Bleu Azur.
18h48, on fait un dernier point sur vos conditions de circulation. Un train supprimé en gare de Menton, ça vient de tomber là, le 18h56 pour Vintimille ne partira pas en gare de Cannes. Le 19h30 pour Nice aura une heure de retard. Prévoyez le coup. Et puis en gare de Nice, hein, c'est le 19h14 pour Cannes La Bocca qui lui est supprimé. Sur la route à cette heure-ci, pas de difficulté hein, sur l'autoroute A8, ça roule bien. À Cannes, c'est le boulevard Carnot dans le sens montant qui vous posera quelques problèmes. À Nice, c'est la voie Matisse qui est encore bien chargée à cette heure-ci hein, en direction du centre-ville. Difficulté que vous allez retrouver à partir de la sortie Nice-Nord jusqu'à la sortie du tunnel Malraux. L'avenue du Maréchal Lyoté est également encombrée, puis la pénétrante du Paillon. Direction la Pointe de Comte, là aussi des embouteillages vous attendent. Patience.
100% Aiglon, 100% Aiglon sur France Bleu Azur.
100% Aiglon, le débrief, dernière partie, toujours avec Stéphane Collet, Maxime Baquier, Patrice Albert Ganti. On parlait à l'instant avec Adil, notre supporter arbitre, supporter de cette animation offensive qui pourrait être un petit peu le point faible des Aiglons pour espérer accrocher l'Europe. Et puis il y a aussi ce calendrier, Max, c'est vrai qu'on n'a pas que des équipes de bas de tableau. Hein.
Non, on en parlait déjà un petit peu. C'est alors quand tu bats pas Clermont et Montpellier, de toute façon, tu sais que c'est compliqué. Et finalement, tu vas gagner à Lens, donc c'est difficile de lire le calendrier à l'avance. Chaque match est compliqué, mais effectivement, il va falloir aller à Marseille, il va falloir aller à Lille, il va falloir aller à Reims, recevoir le Paris Saint-Germain, jouer contre des équipes comme Lorient ou Le Havre qui jouent le maintien. Donc, les 8 derniers matchs seront 8 matchs très compliqués, quoi qu'il arrive, avec quasiment que des équipes qui ont encore quelque chose à jouer, à commencer par Nantes après la trêve, là, à la maison, avec un changement d'entraîneur. On avait vu au match aller comment Gourvenec, qui venait d'arriver, avait transformé cette équipe et ça restera finalement la seule victoire nantaise à la maison contre nos Aiglons. Ça avait d'ailleurs un peu brisé la dynamique. Donc, c'est compliqué de dire que ce calendrier qui semble compliqué comme ça sur le papier peut être un frein. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, c'est la vérité, elle s'écrit
au moment présent et jamais et pas avant. Donc à la fin, tout le monde aura joué contre tout le monde. Et je vois cette équipe de Nice peut-être avec ses profils offensifs plus performantes face à des équipes comme Lens, comme Lille, capables d'avaler les espaces et un peu plus en difficulté sur les adversaires qui vont verrouiller. Donc pour moi c'est pas ça le frein, c'est pas le calendrier, ce sera plutôt comment justement cette équipe va réussir à rester dans cette dynamique mentalement, reproduire ses efforts, retourner au charbon à chaque rencontre sur cette fin de saison.
Une fin de championnat qu'on vous fera vivre en direct, en intégralité sur France Bleu Azur, tous les matchs commentés par Maxime Baquier et puis le débrief chaque lundi pour revenir sur ces matchs importants de fin de saison. Tu le disais Max, hein, c'est la trêve internationale, les Bleus reprennent, j'ai envie de dire remettent leur bleu de chauffe, sauf pour nos Aiglons hein, qui ont pas été sélectionnés, Todibo pas sélectionné, Thuram, allez on peut le dire, rétrogradé chez les Bleuets.
Oui, l'autre consolation pour lui qui a été appelé par Thierry Henry en vue de probablement des Jeux Olympiques de Paris. On peut espérer qu'Efren les joue et avec cette performance à Lens, on se dit qu'il... Ça... Alors on le disait déjà, au moment de la trêve hivernale, ça peut être lui le factoriste de cette deuxième partie de saison. Il avait fait une première partie très très neutre. Il met du temps à se lancer, mais on espère que ce match à Lens va lui servir de rebond. Ça faisait un an tout pile qu'il n'avait pas été décisif avec Nice. 16 mars 2023, contre le Sheriff Tiraspol à la maison, passe décisif pour la board. Un an plus tard, 16 mars 2024, ça y est, il a de nouveau une stat avec ce gym. Quand tu vois le profil que c'est, Patrice, tu te dis c'est quand même un gâchis de ne pas pouvoir profiter des stats de ce joueur. But, passe décisive. Alors on le disait, ça peut être notre top sur ce match à Lens, mais que de temps perdu par ce garçon, par cette équipe, avec ce Thuram un peu en dedans. Alors mieux vaut tard que jamais, c'est peut-être ça qu'il faut se dire.
Ouais, mais après, Kefren, il est passé par des étapes compliquées dans une carrière de footballeur. Hein, et c'est quand tu es jeune comme ça, que tu performes en Ligue 1, que tu as plein d'équipes de France, que derrière, il faut que tu remettes encore le couvert pour comprendre que le haut niveau, c'est tout le temps une exigence très très haute pour pouvoir justement être appelé régulièrement en équipe de France, parce que c'est l'objectif de tout joueur de football, hein, c'est de jouer dans l'équipe nationale. Et je trouve qu'après cette sélection, on l'a perdu. On l'a complètement perdu, Kefren. Et là, peut-être qu'il a, comme le disait tout à l'heure Patrice, il a fallu du temps pour qu'il le digère. Pas facile. T'as des joueurs qui disparaissent complètement, hein. Après une sélection, moi je pense à Marvin Martin, qui avait disparu complètement du football après une sélection en équipe de France. Donc c'est des choses lourdes à porter, et pour des jeunes joueurs encore plus. Donc peut-être que lui, là, il aura plus de temps à l'assimiler. Il est toujours là, il a la confiance du coach, la confiance de ses partenaires. C'est à lui à prouver qu'il est capable d'être un joueur de haut niveau et de retrouver le niveau qui était le sien l'année dernière.
Mais c'est vrai que l'image était belle. Moi je retiens cette image de Thuram quand il a marqué. Tous ses coéquipiers sont venus le voir et ils étaient tous ultra contents pour lui. Hein.
Oui, mais parce que quand t'es joueur et que t'es dans le creux de la vague, faut pas croire, tu vis avec ce groupe, tu vis avec les joueurs quand t'es footballeur, t'es tout le temps avec eux, t'es plus quasiment avec eux qu'avec ta famille. Et quand t'as des joueurs qui sont un peu dans le dur, eh ben t'as toujours le bon pote, le super pote du groupe, le truc qui est là pour t'aider. Et quand t'es délivré, eh ben ça délivre aussi la tête de tout le monde, parce que tu dis ah pétard, ça y est, enfin il est arrivé et tu vas l'aider, tu vas encourager, tu vas lui montrer toute ton affection, donc moi je suis pas étonné.
Ah, c'était une belle image. Todibo qui n'enfilera pas la tunique bleue, Stéphane, c'est mérité pour toi ?
Mérité, non, je dirais non. Mais bon, ça correspond aussi à la période de doute de l'OGC Nice. On est moins performant, il a moins été, donc automatiquement, puis à son poste, la France est fournie aussi, hein, donc c'est pas facile pour lui. Mais bon, ça correspond à... Ouais, c'est tout logique. Moi, je pense que c'est logique. Il était moins bien là qu'il soit pas rappelé.
Tu penses que c'est une question de niveau de jeu, niveau footballistique, ou c'est un problème de comportement? Parce qu'on l'a vu avoir plusieurs comportements un petit peu touchy.
Ben là, je vais rejoindre Patrice aussi. Il y a des choses que certains garçons doivent digérer, et lui notamment. Lui notamment, il a dû être aussi approché par des clubs, tout comme Thuram. Et ce sont des choses qui sont pas faciles à gérer sur une saison, surtout à leur âge. Il a été appelé aussi en équipe de France. Donc ouais, il va falloir attendre. Mais bon, rien n'est perdu. C'est un super joueur, c'est un super stopper. Il aura encore sa chance, j'en suis persuadé.
Et on va rester dans la défense, parce qu'il y a une question qu'on se pose, Max. La prolongation de Dante, c'est pour quand ?
C'est pas pour tout de suite. On sait que c'est à peu près à ce moment-là que ça se négocie chaque année, hein, puisque depuis qu'il a passé les 35 ans, c'est une année plus une année. Enfin voilà, c'est Et on le sent un petit peu perturbé par cet avenir. Lui, il veut absolument jouer une saison supplémentaire. Il s'en cache pas depuis même l'année dernière. Il nous avait dit, moi, je veux encore jouer deux saisons. On est dans la première, il veut en jouer une autre. On nous laisse entendre que ça va se faire, mais on veut pas se précipiter non plus parce qu'on a vu ces dernières semaines justement qu'il était un petit peu en dessous. Alors, est-ce qu'il était en dessous parce qu'il a pas été prolongé? Est-ce qu'il était en dessous parce que le poids de l'âge aussi fait que? Mais on aimerait, ouais, que ce soit réglé assez vite. Mais il n'y a pas que lui. C'est vrai que Thuram, il va lui rester un an de contrat aussi cet été. Todibo, comme le disait Stéphane, il y a un transfert peut-être qui va se jouer dans quelques semaines. Donc, il y a des histoires contractuelles aussi qui peuvent, à un moment, dans ce sprint final, peser. Donc, il faudrait que les choses soient clarifiées en interne. On ne demande pas qu'on sorte du bois comme ça et nous annoncer tout sur la voie publique. Mais comment en interne, chacun ait les idées claires pour pouvoir, justement, ne pas être parasité dans ce sprint final où l'énergie doit être concentrée sur le terrain. Donc Dante, avec son expérience, on peut imaginer que quand il rentre sur le terrain, il arrive à évacuer le reste, mais là c'est pas réglé. Donc bon, voilà, wait and see.
Dans la série des transferts, tu nous as parlé, donc Dante peut-être pas prolongé, on ne sait pas. Todibo potentiellement sur le départ, on sait que des gros clubs lorgnent sur Todibo. Et puis on a appris aujourd'hui, c'est une info à prendre avec des pincettes, avec des scies dans tous les sens, mais Boulka, a priori, pisté par Manchester United pour 40 millions d'euros. C'est en tout cas la proposition qui aurait été faite au club. Tu trouves ça, tient la route pour toi, Pat?
Ah, complètement, parce que je vois le niveau des gardiens qui sont en Coupe d'Europe cette année. À part 3-4, le reste, ils n'ont pas forcément le niveau de Boulka. Hein. Et c'est un jeune joueur, hein, encore Marcinet. Donc, sa première année en Ligue 1, je veux dire, le mec, il est là, quoi. Donc, forcément, tu peux penser qu'il y a des gros clubs qui vont vouloir l'attirer, parce que ce poste-là est déterminant dans une équipe, surtout dans une équipe qui aspire à jouer l'Europe régulièrement. Donc, moi, je ne suis pas étonné.
Ouais. Bon, c'est la presse polonaise qui en parle.
On ne sait pas.
Le canal Sportovi, le média, donc on connaît pas le degré de fiabilité de ce média, mais effectivement, on peut estimer qu'après une saison comme ça, Boulka, il va faire partie des aiglons convoités. Ils ne partiront pas tous.
Il y a des chances qu'on ait plus la même défense l'année prochaine, hein. Boulka, Todibo, Dante. Voilà. Wait and see. Messieurs, c'était un plaisir de passer cette soirée avec vous. Stéphane, de t'accueillir dans 100% Aiglon. Tu reviens quand tu veux, t'étais excellent.
Merci.
Ah bah, on te reprend.
La mobilette. C'était la mobilette sur le terrain.
C'est ça.
Et à l'antenne. Merci en tout cas,
Patrice,
Stéphane.
Patrice, Max, bonne soirée. Merci à vous deux. À très vite. Ciao.
Bonsoir.